jusqu'à 19h.
Cap Sport.
Bonsoir, plein feu sur la saison de hockey sur glace aujourd'hui dans Cap Sport. Le championnat de Swiss League ex-Ligue Nationale B prend son envol ce week-end. Il n'y a plus que deux clubs romands engagés, le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds. L'attractivité de ce championnat en souffre, du moins pour les fans de l'Arc Jurassien. Sa formule aussi est discutable entre répétition de derby et championnat à deux vitesses. On en parle ce soir en compagnie de deux figures emblématiques du hockey de la région, Steven Barras et Steve Pochon. Et puis on n'oublie pas non plus le HC Bienne qui dispute ce soir à Lausanne son quatrième match de la saison de National League, ex-Ligue A. L'ancien arbitre professionnel et désormais consultant spécialisé Stéphane Rochette donnera son point de vue sur le HC Bienne et son début d'exercice. Le club célandais parviendra-t-il à se qualifier pour les play-offs, mieux à passer les quarts de finale? Notre reporter Jérôme Beuchat livrera lui aussi son point de vue. Et à mes côtés ce soir pour parler de hockey sur glace, Marcel Neuenschwander, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Marcel, la Swiss League démarre ce week-end. Avec la disparition du HC Martigny, la Ligue ne comprend plus que 11 équipes et seulement deux clubs romands, le HCC et le HCSA, le HCA. Et il faut bien l'avouer, depuis une décennie environ, la deuxième division helvétique a quelque peu perdu de son attrait.
C'est vrai, le championnat de Ligue B, anciennement Ligue B, hein, a perdu au fil du temps Bienne, Lausanne, Sierre, Martigny ou même Morges. La panoplie des clubs romands ne cesse de se rétrécir. Ceux-ci ne sont pas réellement remplacés. La seule nouvelle entité intéressante qui est venue grossir les rangs du championnat selon Winterthur, le club zurichois dispose certainement de l'enceinte la plus adaptée à la Swiss League. En revanche, on s'interroge sur l'apport des clubs fermes comme Ticino Rockets ou Zug Academy. D'un autre côté, en guise de prologue de la saison, on retiendra quand même Colton recevait Rapperswil mercredi. Mercredi soir, 5000 personnes se sont déplacées.
Et puis la formule du championnat, elle est aussi discutable, hein, avec 4 tours complets suivis d'un tour régional qui débouche au total sur 10 confrontations, 10 derbies entre Ajoie et La Chaux-de-Fonds.
Oui, trop de derbies tue les derbies, c'est tout de même notre avis. Ceci dit, l'équité sportive est également bafouée. Pas moins de 30 points sont en jeu entre les deux clubs de l'Arc Jurassien. On peut réellement s'interroger sur le sens de cette régionalisation excessive du calendrier.
Bon, ce qui ne va pas nous empêcher, Marcel, de suivre de près, hein, la saison de ces deux clubs qui nous intéressent tout spécialement, le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds, à commencer par ce soir.
Oui, bien sûr, avouons nos faiblesses, hein. On attend avec impatience les deux premiers derbies de la saison demain à Porrentruy et jeudi prochain à La Chaux-de-Fonds, à relever de nouveau déjà une inéquité dans le calendrier. La première, le HCA joue déjà ce soir à Zouk alors que le HCC commence sa saison officielle demain.
Et pour parler de tout ça avec nous, nos deux invités qu'il n'y a plus besoin de présenter, Steven Barras et Steve Pochon. Messieurs, bonsoir.
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 Alors, pas de coup de canne ce soir, s'il vous plaît, mais coup de gueule autorisé, encouragé, même si vous le sentez. Si je vous dis Ticino Rockets, Zug Academy ou encore Getseka Lion, qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être d'abord Steve Pochon.
Très très peu de spectateurs et ben voilà, comme vous l'avez dit en préambule, c'est que ben voilà, ça perd de cette attractivité. C'est ben voilà, une mauvaise tendance. Je pense que Steven pourra le confirmer, on a eu des très très belles années, nous, en Ligue B. Ça s'appelait encore Ligue B, avec les clubs comme Lausanne, comme Martigny, Sierre, qui drainaient des biens, qui drainaient des spectateurs. Donc aujourd'hui, on est un petit peu déçus, mais ma foi, c'est une suite logique, quoi.
Steven Barras.
Ouais, moi, mon avis par rapport à ces clubs-là, je suis pas triste de ne pas les avoir joués par le passé, parce que c'est vrai que, voilà, c'est des gros déplacements, puis en plus, peu d'attrait, en tout cas, quand c'est dans leur patinoire maintenant. Moi, je vois aussi le côté positif par rapport à la formation des joueurs qui peuvent aller dans ces clubs-là, parce que ça, c'est vraiment quand même des clubs formateurs, comme par le passé, on a pu connaître avec Grasshoppers. Hein, Steve a joué contre aussi plein de fois. C'était pas des matchs faciles. C'est sûr que c'est pas les patinoires les plus intéressantes à aller voir jouer, mais après, voilà, on a vu beaucoup de joueurs passer par Zurich, donc Getse, et puis après sortir des super belles carrières en Ligue nationale. Donc, ça, c'est le côté positif. Maintenant, c'est vrai que voilà, il faudra peut-être statuer sur le nombre d'équipes qu'on est prêt à accepter en Ligue B, qu'on appelle club ferme, parce qu'après, s'il y en a 80%, c'est sûr que ça va être beaucoup moins intéressant.
Steven Barras, vous dites des clubs formateurs, certes, mais en fait, qui n'ont comme ambition uniquement que de former, et qui n'ont pas de réelles ambitions sportives dans le championnat. C'est peut-être cela qui dérange.
Non, moi je pense pas qu'ils ont pas d'ambition sportive. Je pense que tous les clubs, quand ils commencent une saison, ils ont envie de bien la réussir, de faire les playoffs, et puis après il peut se passer plein de choses. Moi, j'ai le souvenir que Getse, une fois, a sorti Langenthal en play-off. Je veux dire, c'est des choses qui sont possibles. Et les jeunes, ils arrivent là, ils ont envie de jouer, puis ils ont envie de tout gagner. Je pense qu'ils sont comme les autres. Maintenant, ils ont moins de moyens. Ils n'auront peut-être pas surtout des joueurs étrangers, comme il peut y avoir dans les clubs qui ont plus, je dirais, plus d'ambition sportive, si on le prend comme ça. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours des matchs compliqués à jouer. Et puis ça donne une certaine variété. Maintenant, c'est comme j'ai dit, il ne faudrait pas qu'il y en ait 8 sur 10 qui soient des clubs formateurs avec plus d'étrangers. Et puis, clairement, le niveau baisserait et puis l'attrait serait moins important.
Des adversaires qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, d'ailleurs, ne sont jamais faciles à battre.
Non, jamais facile. Je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais surtout au début que j'ai joué, donc début des années 2000, les matchs à Getse, c'était vraiment des matchs compliqués. Hein. En plus, ils avaient à ce moment-là des étrangers, surtout un qui était très performant. Donc, on s'est jamais baladé là-bas. Après, ça allait un petit peu décrescendo. Donc, ils étaient de moins en moins bons, je dirais. Mais vous pouvez demander à n'importe quel joueur qui joue maintenant. Voilà, souvent, l'équipe favorite va les battre, mais ce n'est jamais des matchs faciles.
Ce n'est jamais des matchs faciles. Steve Pochon, le HCC, a perdu des matchs au CAIC de Küsnacht. Est-ce qu'on apprécie de jouer contre ce genre d'équipe ?
Alors, on a perdu très souvent, très très souvent, parce que l'étranger en question était Mike Richard. Et puis c'est vrai que malgré son âge, il avait un niveau de jeu qui était assez exceptionnel. Et puis il tirait vraiment tous ses jeunes. Et en plus, ces jeunes étaient très très talentueux. Maintenant, depuis quelques années, si on parle vraiment de Getse, je trouve que ça a perdu un tout petit peu en qualité. Et puis, ils n'ont pas forcément les étrangers depuis 2-3-4 de saison, ils n'ont pas forcément les étrangers qui peuvent tirer ces jeunes, mais c'est vrai que nous, c'était des déplacements extrêmement difficiles. Steven a complètement raison, parce que c'est souvent, on jouait le samedi un gros derby, puis il fallait des fois se déplacer le mardi directement à l'extérieur, que ce soit à Turgovie ou à Getse, pour ne pas les nommer. Et puis on perdait un petit peu de cette envie, parce qu'on arrivait, puis il n'y avait vraiment pas un bruit pendant l'échauffement, et puis c'était très très difficile d'aborder ces matchs. Donc c'était vraiment pas une partie de plaisir, quoi.
Oui, Steven, ça c'est une réelle difficulté de se rendre dans ces patinoires où il n'y a pas de monde, pas d'ambiance.
Oui, alors disons que c'est pas vraiment une... Si, c'est un peu une difficulté. Motivé, ouais. Ce qui est plus compliqué, c'est de comparer avec un derby, justement, ou avec un match contre une équipe de haut de classement. C'est plus difficile de se motiver, mais finalement, on connaît l'importance de ces points-là, parce qu'à la fin, 3 points contre Getse ou 3 points contre... je vais prendre Langenthal maintenant, c'est 3 points les mêmes au compteur, donc il faut les faire, et puis c'est ça la motivation qu'il doit y avoir. C'est pas le public qui va nous donner la motivation quand on va dans ces patinoires-là, donc voilà, après c'est à chaque équipe, chaque joueur d'essayer de se motiver, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que dans des matchs à enjeu, je dirais.
Steve, vous disiez à l'instant que Getse avait un peu baissé de niveau ces dernières saisons, et c'est vrai, ça se constate, ils n'ont plus fait les playoffs ces dernières années. Est-ce que justement l'accumulation de ces clubs fermes, on a vu l'apparition de Zug Academy, des Ticino Rockets, ça fait que ça disperse peut-être un peu les meilleurs jeunes joueurs, est-ce que ça finalement est négatif pour ce genre d'équipe comme Getse ?
Alors, je pense pas que Zug ou Ticino Rockets ait pris pas mal de joueurs de Getse. Si on prend Rockets, c'était vraiment leur ambition, c'était de mettre les juniors élites qui finissaient junior élites, qui pouvaient aller essayer de s'aguerrir en Ligue B. Donc, c'était vraiment que des joueurs tessinois. Et Zug aussi avait leur académie avec leurs joueurs de leur région. Donc, je pense pas que ce soit un effet négatif sur Getse. C'est que c'est simplement, je pense que depuis tellement d'années, ils ont sorti quand même vraiment des superbes joueurs. Si on regarde aujourd'hui les contingents de Liga des clubs zurichois, vous pouvez aller sur leur historique. Ils ont tous passé par Getse. Et c'était vraiment des joueurs de qualité. Simplement, maintenant, il y a peut-être pendant 2-3 ans, peut-être un tout petit peu moins de talent, mais le talent est toujours là. Vous pouvez aller voir, pour ceux vraiment qui aiment le hockey, puis regarder un petit peu les choses techniques, de voir une équipe comme Getse évoluer, c'est vraiment intéressant, parce qu'ils ont un niveau technique incroyable. Simplement, il leur manque 2-3 leaders qui marquent les goals, et surtout des bons étrangers. Mais après, les joueurs en eux-mêmes, c'est des excellents joueurs. Ils ont vraiment un super niveau, quoi. Mais ça ne leur permet pas de pouvoir faire des playoffs, quoi.
Alors, un mot quand même, on parle de l'attractivité du championnat. Par contre, il y a des matchs qui sont attractifs. On doit le reconnaître, typiquement, mercredi, Holton Rapperswil, 5000 personnes, ça reste attrayant, ça reste. Il y a des matchs qui valent vraiment le déplacement.
Alors, ouais, bien sûr, ça c'est plus un derby. Je crois que les ambitions d'Holton, elles sont assez élevées. Je crois qu'ils ont aussi travaillé en dehors. En dehors de la glace, si on parle du marketing, ils ont vraiment maintenant fait un boulot incroyable au niveau de la région Soleroise. Et puis Langenthal, ben aussi draine quand même un bon public quand ça compte. Donc c'est des matchs en jeu. Un derby, c'est toujours pour le gagner. Donc il y a du monde qui se déplace. Holton a fait d'énormes efforts sur sa patinoire. Donc de nouveau, on le voit depuis 2 ans, ils ont leur affluence qui a augmenté, quoi.
Des derbys, justement, il y en aura beaucoup cette saison. Au cours de la saison régulière, le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds se rencontreront à 10 reprises. A priori, quand même, c'est un non-sens. Le calendrier est totalement déséquilibré. Steven Barras, qu'est-ce que vous en pensez de ces 10 derbys? Ça fait beaucoup, non?
Oui, je pense que ça fait beaucoup. Maintenant, il faut aussi se placer dans le contexte. Ça, c'est dû finalement à la faillite d'un club qui a été clairement...
Martigny.
Martigny qui a été, je dirais... qui a allé trop dans ses objectifs et dans ses recrutements de joueurs, et puis qui n'a pas pu assumer derrière financièrement, qui avait un projet qui était complètement surévalué. Alors, bien sûr, dire qu'il y a trop de derby, c'est dommage. Dit derby, c'est pas forcément quelque chose de logique, c'est pas quelque chose que les clubs veulent non plus. Donc, c'est plutôt une solution, je dirais, temporaire pour gérer le départ de Martigny. Donc, ne pas tirer trop sur les clubs qu'on choisit cette solution. Maintenant, c'est pas idéal. Ce sera une saison avec plus de derby, mais il faut aussi se placer du côté, je dirais, de responsabilité sur la Ligue, hein, qui a quand même accordé des licences à Martigny avec des projets qui étaient clairement pas réalisables et puis qui ne sont pas assez assurés derrière au niveau de la durabilité de leur projet. Puis derrière, on a une faillite et puis on se retrouve avec un championnat un petit peu déséquilibré. Donc voilà, les clubs se sont finalement adaptés au dernier moment. Moi, je connais un petit peu le fonctionnement, hein, comment ils avaient le choix en plusieurs solutions. C'était la moins mauvaise de toutes, donc voilà.
Ouais. Steve, alors moi, je donne 100% raison à Steven. C'est pas forcément la faute des équipes ce qui se passe là. Moi, je comprends pas qu'on puisse. C'est au niveau de la ligue vraiment qu'il faut commencer un petit peu à serrer la vis. Je crois que même tout le monde le savait que Martigny, ça allait pas être jouable. On peut pas passer de 2,5 millions à 5,5 millions. J'entends, on connaît tous les clubs un petit peu. C'était la Suisse, c'est 7 millions d'habitants, mais le monde du hockey, c'est très petit. Puis tout se sait. Donc on le savait que ça allait être à la longue pas viable. Et puis c'est vrai que maintenant les clubs, ben, ils se sont retrouvés fin mai, début juin à devoir accepter la moins mauvaise solution. Mais moi, ce qui me dérange dans ces 10 derbys, c'est que ben, de nouveau, si je prends l'exemple de Chaux-de-Fonds, cette année, depuis 2 ans, ils ont fait une super idée, un super projet qui était ce Winter Derby. Et là, j'ai un petit peu peur que cette année, ben, avec tous ces derbys, que ça va casser un petit peu le mythe. Moi, personnellement, j'en ai pas connu, mais Steven les a connus. Je pense que de pouvoir jouer au mois d'octobre, novembre devant la patinoire pleine, je pense que c'était un moment. En plus, ils ont gagné 2 fois, là. Donc c'était vraiment des bons moments. Et puis, ben voilà, 5 matchs à la maison contre Ajoie, ça va être un petit peu difficile d'avoir ce Winter Derby parce que c'était attendu. Et là, on va peut-être moins l'attendre. Alors, je le dis ça aujourd'hui parce que voilà, j'espère que ça va pouvoir continuer, quoi. C'est juste ça que je regrette un petit peu par rapport à. Si c'est un match à la maison.
Penchons-nous peut-être maintenant un peu plus en détail justement sur les deux clubs qui nous intéressent, le HCA et le HCC, peut-être en commençant par Ajoie, ordre alphabétique. Steven Barras, comment vous sentez cette équipe du HCA à maintenant 1h15 du coup d'envoi de la saison 2017-2018?
Bah, je la sens plutôt bien. Je pense qu'il y a des acquis au niveau de l'équipe, au niveau du management, et puis il y a surtout une campagne de transfert que j'ai envie de qualifier de réussie. Maintenant, il faut faire le championnat, hein, mais voilà, de nouveau, quand on est en début de saison comme ça, finalement, on regarde la liste de joueurs et puis on se dit quels ont été les choix qu'ils ont pris, qui est parti. Puis ben, si on pèse les pour les contre, on constate vraiment que le HCA est meilleur que l'année passée. En tout cas, au niveau qualitatif. Maintenant, il faut que la mayonnaise, elle prenne. C'est ça le plus important dans une équipe. C'est quelque chose qu'on a toujours bien su faire au HCA parce que ben, on a quand même toujours eu des moyens limités par rapport à d'autres clubs. Donc, on a toujours beaucoup axé sur le vestiaire et puis l'équipe soudée. Et puis ça, il faudra qu'ils réussissent à recréer ça. malgré peut-être plus de joueurs talentueux qu'on a l'habitude d'en voir à Porrentruy. Mais je pense qu'offensivement, on est bien, il y a des bons gardiens, des étrangers, on sait à quel point ils sont performants aussi. Donc il y a tout pour qu'ils fassent une belle saison et puis une belle deuxième partie de saison, donc si possible, play-off compris. Alors après, comme je vous dis, il y a 50 matchs à jouer, il y a 10 derbies, il y a des play-offs, c'est long une saison, mais je dirais que tout est en place pour qu'ils soient très performants cette année.
Alors, on a l'impression que tous les feux sont ouverts du côté de Porrentruy. Steven Barras, qu'est-ce qu'il en est du côté du HC La Chaux-de-Fonds, Steve Pochon ?
Alors, moi, j'ai quand même suivi. Je suis un petit peu tout ce qui se passe au Mélèze. Ils ont perdu quand même passablement de joueurs offensifs qui marquaient des goals. Donc, c'était des joueurs importants. Maintenant, cette année, ils ont remplacé ça par. On l'a vu dans la presse, ils ont remplacé ça par des joueurs un peu plus grands, plus gros. Ils veulent essayer un petit peu de muscler leur jeu tout en essayant de garder un petit peu cette vitesse. Il y a un bon amalgame entre les joueurs qui doivent avoir ce rôle de leader puis marquer des goals et des joueurs qui doivent être des joueurs de l'ombre, des joueurs qui sont extrêmement importants, qui doivent se sacrifier, qui doivent faire de la place devant les goals. Ça, pour la fin de saison, c'est hyper important. L'année passée, peut-être, ce qu'on pouvait reprocher à Chaux-de-Fonds, qui était le favori l'année passée, que tout le monde disait, mais finalement, à la fin, en play-off, il n'y avait pas assez de joueurs qui se couchaient devant des pucks, qui amenaient des pénalités, qui dérangeaient beaucoup. Et puis cette année, peut-être qu'ils ont essayé d'avoir, avec des Fischer, avec des Kung, des joueurs un petit peu qui ont ce rôle-là et qui l'acceptent et qui le font vraiment bien, en tout cas dans leur club respectif, avant qu'ils viennent à Chaux-de-Fonds. Donc je pense que ça peut être un bon mix. Et puis moi, où je suis un petit peu content, c'est qu'au moins, on ne va pas parler de Chaux-de-Fonds favori cette année. On va plutôt laisser ça à la place à Holton. Donc, ils seront vraiment dans la peau des outsiders, comme Langenthal, comme Ajoie, comme tout un petit peu, toujours un peu les mêmes équipes. Donc, ils seront vraiment outsiders, quoi.
Bon, Steve, en principe, c'est Chaux-de-Fonds qui s'autoproclame favori, non ?
Ah là là. Je ne sais pas, je lis Planète OK, moi. Alors, je ne sais pas qui c'est le journaliste, quoi.
On avait dit pas de coup de canne. Peut-être, Steve Pochon, une petite question. Ce qui manque aussi depuis une ou deux saisons, même peut-être plus, à Chaux-de-Fonds, c'est un vrai duo d'étrangers. Quand on voit l'importance d'un Hazen DeVos à Ajoie, d'un Campbell Kelly du côté de Langenthal, on a un petit problème là, du côté de la Chaux-de-Fonds. Est-ce qu'il est réglé avec l'arrivée de John McFarland ?
Alors là, je vais surtout pas me prononcer parce que j'ai vu aucun match amical. Donc, je vais pas me prononcer. Après, on a toujours un petit peu, on voit quand même ce qui se passe quand ils font un match, on regarde un petit peu qui a marqué, qui a fait des passes, et on attend des étrangers. Ils ont quand même une sacrée pression, on attend qu'ils fassent en tout cas un point et demi par match, et puis pour l'instant, c'est pas le cas pour l'instant. Il faut y laisser à ce duo le bénéfice de la préparation. C'est un nouveau championnat pour lui, il doit s'habituer à sa nouvelle équipe. Il faudra faire le point à la pause de l'équipe nationale. Et puis, en tout cas, j'espère qu'ils ont pris les informations aujourd'hui avec les moyens qu'il y a pour visionner les joueurs. Et puis, donc, on devrait normalement pas se tromper. Mais après, on ne sait pas comment ça se passe, l'acclimatation. Est-ce qu'il va se plaire dans la ville? Est-ce que sa femme va se plaire? Il y a beaucoup de paramètres pour qu'un étranger s'épanouisse dans un club, quoi.
Steven Barras, Steve Pochon, merci beaucoup de vos éclairages à l'aube de cette nouvelle saison qui commence et qu'on espère la plus longue possible pour les deux clubs de la région, Ajoie et La Chaux-de-Fonds. Une très très belle soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, bonne soirée.
Et on va continuer notre seconde partie d'émission avec le troisième club de l'Arc Jurassien que l'on n'oublie pas, qui est également engagé en Ligue Nationale et pas des moindres, puisqu'il s'agit du HC Bienne. Le club célandais a entamé le championnat de National League par deux belles victoires avant de trébucher face à Fribourg-Oteron. Il joue ce soir à Lausanne, mais que faut-il donc penser du club de la Tissot Arena cette saison ? Parviendra-t-il à se qualifier en play-off ? Réussira-t-il même à passer les quarts de finale ? Des questions que l'on a posées à Stéphane Rochette, ancien arbitre professionnel et aujourd'hui consultant spécialisé. Le Québécois donne son avis sur le HC Bienne version 2017-2018. C'est le coup de fil de Noémie Renvet.
Les deux premiers matchs, c'est des matchs, des must win, comme on dit en anglais, c'est des matchs importants pour bien commencer. Ils avaient un début de saison relativement facile avec trois adversaires directs pour la barre, parce qu'on considère Bienne comme étant un concurrent pour la barre. Donc deux bonnes victoires, petite défaite contre Fribourg. Donc pour l'instant, on fait le job du côté de Bienne. Par contre, pour la saison, mes pronostics sont plutôt pessimistes pour l'HC Bienne. Donc, je pense que l'HC Bienne n'a pas assez de profondeur en défense. On a perdu trois acteurs importants en défense. Wellinger, Lundin et puis Souter sont partis. On les a remplacés par Kreis et le défenseur de Davos, Forster. Pour moi, on s'est clairement affaibli au niveau de la défensive. En plus, on a des blessés longue durée en défense. Donc, ce manque de profondeur en défense devrait coûter cher au HC Bien sur l'ensemble de la saison. Et je pense que c'est là le point faible. Hilaire devra se surpasser, faire des miracles si on veut tenir la baraque en défense. Du côté de l'attaque, c'est du pareil au même, je pense. On n'a peut-être pas compensé le départ de notre joueur Gaëtan Haas, qui est rendu à Berne. On a été chercher le jeune Fuchs. Mais pour le jeune Fuchs, c'est 21 ans. Il n'est pas prêt à remplir les patins, en fait, de Gaëtan Haas. Donc, ça devrait être un petit moins en défense du côté de l'attaque, du côté du HC Bien. Donc, globalement, je pense que l'HC Bien s'est affaibli et aura de la peine, beaucoup de peine à participer aux playoffs.
On se souvient d'un très bon début de saison l'année dernière aussi. Est-ce que la régularité, c'est un problème pour le HC Bien?
La régularité, c'est le problème de toutes les équipes qui ont peu de profondeur, des équipes qui sont dites bas de classement. Donc, le manque de profondeur fait qu'on est sujet à une blessure importante. Si on perdait Pouliot ou Earl, ce serait catastrophique du côté de l'attaque. Si Hiller venait qu'à être blessé, ce serait catastrophique, presque irrécupérable, parce qu'on n'a pas de profondeur au niveau des gardiens. Donc, peu d'équipes ont cette profondeur, sinon les grands clubs, Berne, Zurich, Lugano, Davos, et les autres équipes, malheureusement, ont peu de profondeur. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Les étoiles doivent vraiment être alignées. Et puis, ces équipes-là, évidemment, doivent éviter les séries de défaites. Donc, évidemment, on ne doit pas accumuler 2, 3, 4 défaites de suite dans des spirales négatives. Si on évite les spirales de défaites, on peut se maintenir au-dessus de la barre et à espérer participer aux playoffs.
Depuis sa promotion en 2008, le HC Bien finit le championnat entre la 8e et la 12e place. Est-ce qu'il y a encore une marche à franchir qui le sépare des premières places ou c'est justement le manque de profondeur, comme vous dites?
Bien a le même problème que les autres petits clubs, en guillemets. C'est que c'est pas un club riche, c'est un club qui peut pas compétitionner avec les grands clubs pour aller chercher des gros joueurs. Donc malheureusement pour Bien, comme d'autres équipes, comme Langnau, comme Kloten, comme même Fribourg, et c'est difficile pour eux d'aller chercher des grosses pointures, des joueurs de premier plan suisse, parce qu'on sait qu'on peut pas compétitionner au niveau des salaires. On peut aller chercher de bons étrangers, parce que des bons étrangers, il y en a plein sur le marché. Mais des bons joueurs suisses de premier plan, il n'y en a pas des masses, et ils coûtent très cher, on se les arrache, et Bien, comme d'autres équipes, a beaucoup de peine à compétitionner. Donc, malheureusement, est condamné à se battre année après année pour accrocher une 8e place synonyme de succès.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un HC Bien un peu différent depuis qu'il a une nouvelle patinoire?
Fondamentalement, au niveau de la glace, je ne vois pas beaucoup de différence. On espérait que l'augmentation du budget, on parlait d'une augmentation de quelques millions de francs, allait se traduire par un effectif plus fourni, avec plus de budget, plus de bons joueurs suisses de premier plan. Mais malheureusement, on n'a pas vu ça au niveau de la glace. Et ça montre toute la difficulté de recruter des joueurs suisses de premier plan. Non, il y a l'argent, mais il y a aussi le prestige associé au club, puis la possibilité de gagner un titre. Les joueurs suisses de premier plan veulent gagner un titre. Même si on offre autant d'argent à Bien qu'à Berne sur quelques éléments, le joueur, il va aller, on l'a vu, Gaëtan Haas, il veut gagner un titre avec Berne. Même si, probablement, à Bien, on lui a offert autant d'argent, on lui a dit, écoute, on veut te garder, comme Julien Sprunger à Fribourg. Mais c'est vrai que au niveau de la glace, depuis la nouvelle patinoire, moi, j'aime bien sa physionomie de l'équipe dans cette nouvelle patinoire. Ça fait beaucoup plus professionnel, l'accueil est meilleur, etc. Donc, l'ancienne patinoire, c'était dégueulasse. Honnêtement, c'était devenu insalubre. Là, c'est bien, mais au niveau de la glace, au niveau des résultats, il n'y a pas un gros changement, malheureusement.
Jérôme Beuchat, bonsoir. Vous êtes le commentateur spécialisé des matchs du HC Bien sur RJB. Quelle est votre réaction par rapport aux propos de Stéphane Rochette?
Bonsoir. Je pense comme Stéphane Rochette, si le HC Bien se qualifie pour les playoffs, s'il y arrive, évidemment, ça sera 8e. Je vois pas le HC Bien aller beaucoup plus haut. On rappelle qu'en 9 saisons de Ligue nationale, à chaque fois que le HC Bien s'est qualifié pour les playoffs, il a fini 8e et il s'est qualifié qu'à 4 reprises. Et les 4 fois, c'est parce qu'un Cador s'est manqué et a fini en play-out. Donc cette saison encore pour le HC Bien, ça va être très difficile. Il a bien commencé le HC Bien, il a battu Kloten et Langnau, des adversaires directs. Il a perdu contre Fribourg mardi, donc on peut dire un départ réussi, mais sur toute la saison, ça va être quand même être difficile, mais on y croit du côté des Célandais.
Merci beaucoup Jérôme, on va vous laisser, merci de votre éclairage, puisque d'ici quelques minutes, vous commentez sur RJB la rencontre Lausanne-Bienne, ce sera dès 19h30, et puis sur RFJ ce soir, on suivra le déplacement du HC Ajoie du côté de Zug Académie, coup d'envoi de la rencontre à 20h, et puis on vous rappelle, demain soir, dès 20h, le premier derby de l'Arc Jurassien, donc entre le HC Ajoie et le HC La Chaux-de-Fonds, coup d'envoi 20h. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, vous la retrouvez en podcast d'ici quelques minutes sur la page de l'émission, sur notre site internet. Très belle soirée et un bon week-end.
Bonsoir à tous.
Cap Sport.